Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal. Théo Manval.
Notre lucidité de policier nous amène à n'exclure strictement aucune hypothèse à ce stade.
Et l'hypothèse retenue ce soir par le préfet de police et les enquêteurs, c'est finalement celle de l'acte terroriste. Le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête sur l'attaque au couteau qui a fait 4 morts hier. Point complet sur les derniers éléments dès le début de ce journal. Nous irons aussi au Lila en région parisienne. Comment en est-on arrivé à voir des collégiens échanger des coups de couteau, là aussi lors d'une bagarre en plein cours de sport? Un garçon de 15 ans a perdu la vie. Dans ce journal également, Emmanuel Macron face aux éleveurs en colère lors d'une visite. Petite surprise aujourd'hui près de Clermont-Ferrand.
On est mal, on a l'impression d'empoisonner les gens au lieu de les nourrir.
Le début de la convention citoyenne sur le climat, 150 Français tirés au sort pour plancher sur des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une décision très attendue et très symbolique sur la filiation de 2 enfants français nés par mère porteuse aux États-Unis. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Son invité, Nathalie Stubler, PDG de Transavia, nous expliquera comment sa compagnie se positionne après les faillites coup sur coup d'XL Airways et d'Aigle Azur. Il y a du sport, aussi du foot ce soir. Début de la 9e journée de Ligue 1. Amiens reçoit Marseille. C'est le début de la 2e mi-temps au stade de la Licorne, Sébastien Boé.
Et 2-1 pour Amiens face à l'Olympique de Marseille après 59 minutes de jeu ici au stade de la Licorne.
On vous retrouve en fin de journal et puis on fera un point sur vos prévisions météo pour demain avec Valérie d'Armand.
Europe 1.
On a un temps évoqué une crise de démence, la piste d'un mal-être au travail. Mais si l'attaque au couteau perpétrée hier au cœur de la préfecture de police à Paris par l'un de ses employés était en fait un attentat terroriste, l'hypothèse est désormais privilégiée. Ce soir, le parquet national antiterroriste est finalement saisi de l'enquête. Guillaume Bié, est-ce qu'on sait ce qui justifie ce soir cette décision?
Alors, ce qui fait basculer l'enquête en ce sens, ce sont 2 éléments à ce stade. D'abord, les déclarations de la femme du meurtrier. Elle est toujours interrogée par les policiers de la brigade criminelle. Sa garde à vue a été prolongée parce qu'elle apporte aux enquêteurs des éléments nouveaux et déterminants sur la possible radicalisation de son mari. Et puis, l'autre indice, c'est le contenu du téléphone portable de l'assaillant. C'est hier matin, juste avant l'attaque, qu'il a acheté le couteau en céramique avec lequel il a commis ses crimes. Et d'après nos informations, il a prévenu sa femme par SMS, laquelle ne l'aurait absolument pas dissuadé de passer à l'action. Voilà pourquoi sa garde à vue est prolongée. C'est ce qui donne une tournure terroriste à cette tuerie, alors que jusqu'ici, cet agent administratif de la préfecture de police, certes converti à l'islam il y a 2 ans, n'avait jamais présenté le moindre signe d'alerte ni de difficulté comportementale. C'est ce que disait hier le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. L'enquête est désormais menée par le parquet national antiterroriste, confié à la section antiterroriste de la brigade criminelle, la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et la DGSI pour l'aspect renseignement.
Merci beaucoup Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. À la mi-journée, un hommage a été rendu aux 4 fonctionnaires tués hier après-midi. Minute de silence en présence du ministre de l'Intérieur dans la cour du bâtiment, là même où le parcours meurtrier de l'assaillant a pu être stoppé. Stoppé grâce au courage d'un très jeune policier. C'est lui qui a ouvert le feu. Un gardien de la paix qui n'était là que depuis quelques jours. Le préfet de police Didier Lallement lui a rendu hommage.
C'est un jeune fonctionnaire qui a fait cette neutralisation. Un garçon d'une promotion d'école de police qui vient d'arriver à la préfecture. Un garçon qui était là depuis 6 jours. Ce qui montre l'excellence de la formation de nos fonctionnaires et le sang-froid dont ils savent faire preuve.
Le préfet de police Didier Lallement au micro européen de Yasmina Katou. Et de coups de couteau, il en est aussi question dans cette bagarre entre lycéens, cette fois, qui a éclaté ce matin dans un cours d'EPS sur la commune des Lilas, en région parisienne. 2 classes d'un collège et d'un lycée voisins qui s'entraînent, puis une bagarre. Et en tentant de s'interposer, un lycéen de 15 ans qui meurt poignardé sous les yeux de ses camarades. Jean-Jacques Héry, vous vous êtes rendu sur place. Jean-Jacques, comment explique-t-on ce soir ce qui s'est passé?
Eh bien que tout a démarré ce matin vers 11h30 dans l'enceinte d'un stade municipal proche de 2 établissements scolaires, le collège Marie Curie et le lycée Paul Robert. Sur le terrain de sport, lycéens et collégiens se côtoient et ce matin, dans des circonstances encore très floues, 2 groupes auraient commencé à s'invectiver. Cela aurait particulièrement dégénéré entre 2 jeunes au point qu'un 3e se serait interposé pour protéger son ami et c'est à ce moment-là qu'il aurait reçu un coup de couteau mortel. Alors immédiatement, les cours au sein du collège ont été suspendus, les parents invités à venir chercher leurs enfants, tous choqués comme Anna, élève de 4e.
C'était vers devant le collège et il y a tout le monde qui en a parlé, etc. Tout le monde était triste, tout le monde pleurait, tout le monde était dévasté. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu la scène en rentrant de sport, du coup, ça les a un peu choqués. Je trouve que c'est triste parce que c'est un peu dramatique.
Ce soir, trois collégiens d'une quinzaine d'années ont été placés en garde à vue. Ils sont suspectés d'être les auteurs du meurtre. La victime, elle, n'était pas scolarisée au Lila, mais à Aubervilliers. Alors que faisait-elle ce matin sur le terrain de sport? C'est une question à laquelle les enquêteurs devront répondre pour retracer le déroulé tragique des faits et comprendre pourquoi ce jeune lycéen, qui n'avait rien à voir avec les deux établissements scolaires, a été tué sur ce terrain de sport dans un conflit qui semble trouver sa source dans une banale et triste rivalité entre quartiers à laquelle il était a priori totalement étranger.
Merci Jean-Jacques Herry depuis Les Lilas en Seine-Saint-Denis pour Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
À 22h passées de 6 minutes sur Europe 1, direction maintenant Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand, où se tient en ce moment le sommet européen de l'élevage. Et où Emmanuel Macron s'est invité à la surprise générale pour aller dialoguer avec des représentants du monde agricole. On sait les exploitants remonter en ce moment, notamment sur l'adoption des traités de libre-échange, la concurrence étrangère. Adrien Beck, vous avez suivi le président qui est resté plusieurs heures et qui a eu de longs échanges, parfois mouvementés, avec les éleveurs.
Oui, et le rapide crochet par ce sommet s'est transformé en visite fleuve. 7 heures sur place au total, 7 heures entre les Aubrac et les Charolaises face à des agriculteurs très remontés, très inquiets aussi, comme Sandrine, éleveuse dans la Loire.
Bonjour,
on est mal, on a envie de manger de la viande.
Exactement. Là, on va aider là, sur la sécheresse, mais aussi c'est le modèle économique.
Non, mais c'est le matraquage qui est dur tous les jours, tous les jours.
Mais il est dur en plus parce que vous ne vivez pas bien.
Parce qu'on a l'impression d'empoisonner les gens au lieu de les nourrir.
Avec cette visite de dernière minute, pas prévue à son agenda, Emmanuel Macron en a profité aussi pour sermonner les agriculteurs, ceux qui ont chahuté hier 2 députés de La République En Marche en raison de leur vote sur le CETA. Violence inacceptable, a dit le président, mais je serai à vos côtés, a-t-il plus tard tempéré. Un Emmanuel Macron qui, ces jours-ci, se démultiplie sur le terrain, hier soir sur les retraites, ce matin avec les agriculteurs et ce soir pour un débat sur la presse ici à Clermont-Ferrand pour les 100 ans du journal La Montagne.
Débat effectivement en cours et Emmanuel Macron salue l'importance du travail des journalistes en France et le besoin notamment de presse locale. Merci beaucoup Adrien Beck en ligne de Clermont-Ferrand pour Europe 1. Emmanuel Macron qui a par ailleurs promis de se rendre à Rouen dans les jours qui viennent. Rouen où la justice vient de nommer un expert chimiste pour enquêter sur les lieux de la catastrophe Lubrizol. En fin d'après-midi, les agriculteurs de Seine-Maritime ont reçu les premiers résultats des analyses menée sur les produits alimentaires. Premier résultat rassurant, mais qui ne sont pas encore complets. L'État maintient donc les interdictions de récolte et de commercialisation des produits à ce stade. Écoutez le président de la Fédération régionale des exploitants agricoles de Normandie, Arnold Puech-Dalissac.
Ce que l'administration nous a communiqué, c'est que les résultats d'analyse sont satisfaisants, qu'il n'y a rien d'inquiétant dans ce qu'ils ont cherché dans un premier temps. Au vu des produits qui ont brûlé dans l'usine, ils cherchent les dérivés de ces produits maintenant et on n'aura pas de résultats là-dessus avant le 11 octobre. Bon, ce qui est très contraignant pour les agriculteurs, puisque certains doivent acheter de la nourriture chez leurs voisins ou plus loin pour nourrir leurs animaux, puisque les récoltes sont consignées et ne peuvent pas être données aux animaux. Tout ce qui avait été stocké avant, il n'y a pas de problème, mais tout ce qu'on a fait depuis le 26 est consigné. On l'accepte, mais moralement, on est toujours dans l'inquiétude, même si on est fortement rassuré par les premières analyses qui sont sorties.
Le président de la FRSEA de Normandie, propos recueillis par Rémi Bostzaron. Le climat, à présent, c'était une promesse faite pour répondre à la crise des gilets jaunes et au fossé dénoncé entre la classe politique, les dirigeants et le reste des citoyens. La Convention citoyenne sur le climat a commencé ses travaux aujourd'hui. 150 Français tirés au sort, chargés de plancher pour proposer des mesures et faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Claudia Bertram a suivi pour Europe 1 leur installation cet après-midi au Conseil économique et social où ces 150 Français ont reçu la visite inaugurale du Premier ministre Édouard Philippe.
150 citoyens les plus représentatifs possibles de la société. Une sorte de France en miniature. Et pour Tristan, qui fait partie des 13% d'étudiants et qui est originaire de La Réunion, c'est une grande responsabilité.
Parmi les millions de Français qui auraient pu être choisis, ben c'est nous qui avons été choisis, donc on a un peu une responsabilité. Si on fait pas bien les choses, on le fera pas bien pour eux aussi.
Durant ces week-ends, ces citoyens se pencheront sur la question du réchauffement climatique. Ils aborderont notamment le sujet sensible de la fiscalité du carburant, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Marie-Josée, elle, fait partie des 27% de retraités et elle l'admet, elle n'y connaît pas grand-chose et doute de la légitimité de cette convention.
Sincèrement, je suis un peu sceptique. Hein. Certains y connaissent peut-être quelque chose, mais des gens comme moi, bon, on est respectueux, ça s'arrête là.
Je ne devrais pas le dire, mais est-ce qu'on ne va pas être téléguidé un petit peu pour faire des propositions ?
Scepticisme aussi sur la capacité à peser politiquement. Fin janvier, les citoyens devront formuler des propositions sous forme de règlement de loi ou même de référendum. Le gouvernement pourra ou non en tenir compte, mais devra y répondre publiquement.
Reportage signé Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. L'autre grand dossier du moment, c'est le projet de loi bioéthique débattu en ce moment à l'Assemblée. Et cette décision judiciaire en parallèle qui ne passe pas inaperçue, la Cour de cassation a donné raison au couple Menson, un homme et une femme qui se battaient depuis près de 20 ans pour faire reconnaître leur lien de filiation avec leurs deux filles nées par mère porteuse aux États-Unis. Virginie Riva, bonsoir. Virginie, la Cour reconnaît donc ce lien, notamment pour la mère, même si elle n'est pas donc leur mère biologique.
Exactement, sans que Madame Menson doive passer par l'adoption. Monsieur Menson, qui est le père biologique, lui était déjà reconnu comme père. Un combat très long, vous le disiez, plus de 20 juridictions sont intervenues et un soulagement exprimé par le père.
Nos enfants ne sont plus des fantômes, ce sont nos enfants légalement parlant. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Alors on est aussi content parce que ça va aider beaucoup d'autres familles. Et je pense qu'elles sont nombreuses dans notre cas grâce à cette décision.
Est-ce que ça veut dire, Virginie, que ce principe va maintenant s'appeler, comme le dit M. Menson, à tous les enfants nés par GPA à l'étranger ?
Non, contrairement à ce que dit M. Menson, il faut bien comprendre que cette décision est certes une première, mais elle ne vaut que dans ce cas-là. La Cour le précise bien. Mais le gouvernement attendait cette décision pour clarifier l'état du droit de ces enfants nés à l'étranger de mère porteuse. C'est une promesse du candidat Macron, tout faire pour que ces enfants ne soient pas des fantômes. Une circulaire va être publiée dans les jours qui viennent avec un rappel de ce qui se fait déjà, à savoir la reconnaissance du père biologique reconnu de facto comme père et l'obligation pour le conjoint d'adopter. L'idée, c'est de supprimer la marge d'appréciation qui existe aujourd'hui dans certains tribunaux qui retardent les procédures, et ce, afin que les droits soient les mêmes pour tous.
Merci beaucoup pour ces explications, Virginie Riva, du service Société d'Europe 1.
Europe 1.
22h12 dans l'actualité à l'étranger. Boris Johnson va-t-il finalement céder et accepter un report du Brexit comme le prévoit la loi s'il n'arrive pas à un accord avec l'Union européenne d'ici au 19 octobre ? C'est ce qu'indique un document produit par ses avocats dans une procédure judiciaire en cours devant la justice écossaise. Même si le Premier ministre britannique clame haut et fort le contraire dans les médias, il lui reste 15 jours pour parvenir à un deal avec Bruxelles. On termine ce journal avec les sports et direction tout de suite Doha, au Qatar, où l'on retrouve notre envoyée spéciale Corinne Boulou. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Théo.
On attendait la finale du disque chez les dames avec Mélina, Robert, Michon. On espérait, Corinne, un troisième podium mondial pour elle à 40 ans passés. C'est une petite déception ce soir.
Oui, c'est vrai que la lanceuse médaillée de bronze aux Mondiaux il y a 2 ans est ressortie de sa 6e finale mondiale avec une immense frustration. Une Mélina, Robert, Michon qui à 40 ans ne baisse pas pour autant les bras, même si elle conserve un goût amer de sa 10e place, elle nous l'a dit.
Forcément, j'aurais aimé aller plus loin. Je pense que j'en avais les capacités, mais voilà, il m'a manqué certainement d'assurance ou voilà, d'encore de repères pour passer le cap au-dessus. Donc je sais ce qui va me rester à travailler pour la saison prochaine. Après, voilà, j'ai repris l'entraînement il y a tout juste 1 an. Et si vous m'aviez dit ça, que j'aurais fait 64 au qualif et dans les 12, bah, j'aurais signé dès demain, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, j'arrive pas à m'arrêter là-dessus.
Et oui, évidemment, une déception. On notera aussi côté français la 5e place en finale du 3000 steeple de Djilali Bedrani. La qualification pour la finale demain du relais 4x100 mètres masculin emmené par Jimmy Vico. Et puis nous retiendrons, Théo, de cette soirée un peu folle, le premier record du monde de ces mondiaux sur 400 haies de l'américaine Mohamed. Et surtout un stade enfin plein à craquer pour assister au nouveau sacre de la star du Qatar, le sauteur en hauteur Barchim, médaillé d'or à 2,37 m dans un vacarme assourdissant qui a été salué par des officiels qatariens descendus carrément sur la piste, pour féliciter le héros de la soirée. Théo.
On aura vraiment tout vu dans ces mondiaux qataris. Merci beaucoup Corinne Bolou depuis Doha. Il y a du football aussi ce soir avec d'abord cette officialisation. Claude Puel est bien le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois avant-dernier du classement qui remercie donc leur ancien coach Ghislain Printemps. La 9e journée de Ligue 1 a commencé aussi sur les terrains. Vous l'entendez, Amiens-Marseille en ce moment même. On est au milieu de la seconde période au stade de la Licorne, Sébastien Bouet. Et Amiens mène toujours de buts à 1 face aux Marseillais.
C'est bien ça, 2 buts à 1 pour l'Amiens SC face à l'Olympique de Marseille après 72 minutes de jeu. Ce sont les Amiens qui avaient ouvert le score dès la 12e minute par Alessami. Égalisation marseillaise 10 minutes plus tard avec un but signé Dario Benedetto. C'est le 5e but de la saison pour l'attaquant argentin l'OM. Mais l'OM qui a ensuite concédé un pénalty à la 39e pour une faute de Kaleta Tsar. Pénalty transformé par Serou Guirassy. Depuis, les occasions se multiplient de part et d'autre entre deux formations, on va dire, privées de nombreux joueurs majeurs blessés ou suspendus. 4 côtés amiennois, 5 côtés marseillais. C'est sans doute ce qui explique le manque d'inspiration, on va dire, de l'OM, notamment dans l'animation offensive. Les Picards, peut-être pour le 3e but. Le ballon qui file devant la cage, personne ne reprend. On en reste là, 17 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Et pour l'instant, Amiens mène 2 buts à 1 face à Marseille.
Merci Sébastien Bouet, on vous retrouve juste avant 22h30. Un coup d'œil à la couleur du ciel. Avec vous Valérie Darmon. Valérie, pour demain, ça s'annonce nuageux et pluvieux sur les deux tiers nord du pays.
Absolument, sur le Roussillon, le Languedoc, jusqu'à la région PACA, la journée va se dérouler sous un ciel dégagé ou à peine voilé par moments de nuages d'altitude. Partout ailleurs, de la Bretagne vers les Pays de la Loire, du Poitou au Limousin, sur le Massif central et le nord des Alpes, le ciel sera chargé et un petit peu pluvieux, davantage au nord, de la Haute-Normandie, au bassin parisien, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, ainsi que le nord des Alpes. Il va même un petit peu neiger au-delà de 2100 mètres et sur l'Aquitaine et Midi-Toulousain, le ciel est variable, alternant entre belles éclaircies et passages nuageux. Donc le ciel est contrasté, tout comme les températures. L'après-midi, entre 14 à Verdun et 25 à Montpellier.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Vous restez avec nous dans un instant. Un point sur la bourse, à tout de suite. 22h17 sur Europe 1, l'heure de faire un point sur la bourse. Avec vous, Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Théo.
Wall Street termine la semaine en hausse dans l'attente de nouvelles baisses des taux aux États-Unis.
Ça grimpe, oui, finalement, plus 1,42% sur le Dow Jones, 26 573 points. Le Nasdaq prend 1,40%, 7 982 points. Effectivement, sur l'anticipation d'une nouvelle baisse des taux, ce sera sans doute pour la fin du mois. Les derniers indicateurs de conjoncture confirment le net ralentissement économique aux États-Unis. Cet après-midi, on a appris que les créations d'emplois avaient ralenti assez sensiblement en septembre. Jérôme Powell, le patron de la réserve fédérale américaine, a fait part de vents contraires, de quoi alimenter ses anticipations d'assouplissement monétaire pour la prochaine réunion de la Fed. Ce sera donc fin octobre. Parmi les valeurs en vue aujourd'hui, Apple remonte de 2,8%. 227 dollars, on remonte presque au plus haut sur Apple. Le groupe a demandé à ses fournisseurs d'augmenter la cadence de production de ses iPhone 11 de l'ordre de 10% environ. Apple en profite donc en hausse de 2,8%. On a des valeurs comme Microsoft qui gagne aussi 1,3%, Intel plus 1,8%, Cisco plus 1%. En revanche, HP a fait part d'un plan de suppression de postes de pratiquement 9000 personnes en 3 ans et ça donne une chute de 9,5% pour le titre informatique. Sur l'euro, on campe sous les indices 1,0985 face au dollar.
La bourse de Paris a aussi progressé fortement ce soir en clôture.
Nettement, oui, plus 0,9%, 0,91% exactement, 5488 points aidés par les anticipations de baisse des taux aux États-Unis et par certaines grandes valeurs qui se reprennent, à commencer par STMicro, plus 3%. Le fabricant de puces est aidé par les bonnes nouvelles en provenance d'Apple, avec qui il travaille, et ça donne donc une hausse de 3% pour STM. Reprise aussi d'Air France, plus 3%, de Schneider, plus 2%. Et puis à noter les premiers pas réussis de Veralia en bourse. Le spécialiste de l'emballage en verre gagne 4% ce soir, 28,10 €.
L'exception du jour, Didier, le titre EDF qui est lui retombé sous la barre des 10 €.
Moins 2%, oui, c'est pas beau. Hein. 9,82 €, le groupe a repoussé la présentation de son plan de scission en deux entités à la fin 2019. Ça, c'était initialement prévu. On parle maintenant du printemps 2020. Ce projet baptisé Hercule continue de faire des vagues en interne auprès des syndicats en particulier qui demandent son retrait pur et simple sous peine de future grève. Donc EDF recule assez nettement encore ce soir de 2%. Sur les autres places financières, ça monte. Plus 0,7% en Allemagne, plus 1% à Bruxelles, plus 0,6% à Madrid, plus 0,7% à Milan. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,9%, le CAC à 5488 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet, Didier Hamaud de boursier.com. à 22h20, tout pile sur Europe 1. C'est l'heure de l'interview Écho, comme tous les soirs, avec vous Emmanuel Duteil et votre invité ce soir, Emmanuel, Nathalie Stubler, la PDG de la compagnie Transavia.
Bonsoir Nathalie Stubler.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la patronne de la compagnie aérienne Transavia, c'est une filiale d'Air France KLM. On va revenir dans un instant sur Transavia, mais on est quand même obligé de commencer par l'actualité. Faillite d'Aigle Azur, faillite d'XL Airways. Comment vous expliquez, vous spécialiste de l'aérien, ces deux faillites comme ça en même temps?
Alors d'abord, une pensée pour les salariés, parce que c'est pas évident et c'est assez dur ce qu'ils peuvent vivre. Je vais juste dire, nous, le modèle Transavia, il est différent. Il est différent de ces deux modèles. Nous, on ne fait pas de long courrier. Nous sommes un modèle low cost, je dirais moyen courrier, sur des destinations qu'on connaît très bien, bassin méditerranéen, Europe. Et donc, on a un modèle low cost, moyen courrier, très solide économiquement.
Vous dites, j'ai une pensée pour les salariés. Vous allez avoir besoin d'embaucher puisque vous allez avoir le droit de grossir du côté de Transavia. Est-ce que vous allez prioritairement reprendre des collaborateurs d'Aigle Azur ou d'XL Airways?
Alors, le groupe, dans son ensemble, aura des besoins d'embauche dans les années à venir. J'imagine qu'effectivement, des salariés pourront se positionner sur ces offres d'embauche.
Est-ce que vous allez vous positionner pour pouvoir avoir de nouvelles destinations qui étaient jusque-là celles d'Aigle Azur ou d'XL Airways?
Alors, on va se positionner. Alors là, c'est plutôt le réseau d'Aigle Azur, puisque XL Airways est compagnie long courrier.
Donc sur l'Algérie, sur le Liban.
Voilà, on a déjà des routes départ de Nantes et Lyon vers l'Algérie. Et donc, effectivement, les droits de trafic vers l'Algérie nous intéressent Transavia. Et donc, effectivement, on se positionnera.
On se positionnera, ça veut dire quoi? Ça se passe quand? Ça se passe comment?
Eh bien, on demandera des droits de trafic aux autorités qui octroient ces droits de trafic. C'est un petit peu différent quand ce ne sont pas des accords de ciel ouvert. Donc, ce sont les États qui régissent ces droits de trafic et on se positionnera.
Que ce soit XL Airways ou Aigle Azur, ils ont dit en partie on est tombé parce qu'il y a trop de charges en France. Régulièrement chez Air France, on entend également ce petit message. Pourtant, je suis allé regarder vos comptes, vous êtes rentable, vous, chez Transavia. Vous faites comment?
Alors, on est rentable, effectivement. On a même eu de très beaux résultats l'an dernier, j'aime bien le rappeler. Marge d'exploitation de 9% l'an dernier. Oui, nous sommes rentables. Ça n'empêche
donc
pas qu'il
n'y a pas trop de charges, finalement. Bah, on peut réussir à gagner de l'argent.
On peut réussir à gagner de l'argent, d'autres le disent. Le groupe aussi gagne de l'argent. Néanmoins, ces charges pèsent sur nos comptes.
Prenons un exemple. Vous, vos grands concurrents, c'est EasyJet et Ryanair, qui n'ont pas le même niveau de charges que vous. Vous estimez que vous payez combien de charges en plus que vos grands concurrents sur la même ligne? On va prendre par exemple un Paris-Barcelone.
Alors, je n'ai pas le calcul précisément pour vous donner le Paris-Barcelone. Le groupe en entier a estimé l'écart de charges à 700 millions d'euros lorsqu'on se comparait à des pays comme l'Allemagne et ou les Pays-Bas. Nous, de notre côté, on dit 100% de nos salariés sont basés en France. C'est pour ça que l'écart de charges peut peser plus fortement sur des compagnies comme les nôtres.
Vous dites que la marge est bonne. En termes de trafic, où est-ce qu'on en est là depuis le début de l'année?
Alors, les chiffres de septembre sont tout chauds. De janvier à septembre, on a transporté Transavia France 6 millions de passagers, c'est une évolution de 10%. On a encore un coefficient d'emplissage qui s'améliore. Donc, c'est une très belle année encore à nouveau pour nous.
C'est plus que prévu?
C'est en ligne avec ce que nous avons prévu, tout à fait.
Alors, vous allez réussir à vous développer. Ça a été une sacrée bataille en interne, puisque jusque-là, il y avait un accord qui vous imposait de rester à 40 avions maximum. Ça avait été décidé après l'énorme grève qui avait eu lieu il y a quelques années. Vos pilotes ont finalement dit « D'accord, on va avoir plus d'avions. On va en avoir combien et ça va servir à quoi ?»
On va maintenant pouvoir écrire le tome 3 de l'histoire de Transavia. La feuille de route reste à écrire. Pour les destinations, j'ai l'habitude de le dire, je pense l'avoir déjà dit à cette antenne, en général, on annonce les destinations au moment où on les met à la vente. Ce qu'on vient de faire d'ailleurs pour l'été prochain, on vient d'annoncer 4 nouvelles destinations. Et donc pour les autres à venir, eh bien, on ne manquera pas de revenir vers vous, Emmanuel et vos auditeurs.
Mais le but, c'est de taper très fort. C'est là, enfin, d'être un vrai compétiteur d'EasyJet et de Ryanair, parce que vous êtes encore un nain si on se compare par rapport à ces deux compagnies.
Eh bien, quand on regarde l'ensemble des Transavia, parce qu'il y a aussi une Transavia Pays-Bas...
Qui était même la Transavia historique.
Exactement. On a un ensemble qui représente déjà plus de 80 avions. C'est déjà un bel ensemble. On a l'ambition, évidemment, de croître encore au départ de la France. Tout est possible puisque de nombreuses opportunités s'ouvrent devant nous maintenant.
En revanche, il y a de plus en plus de compagnies low cost dont vous faites partie qui font appel aux passagers là, quand on attend d'embarquer pour dire il y a trop de bagages à main, on n'a pas la place de les mettre, on va en mettre en soute. Comment vous arrivez à gérer ce qui semble être aujourd'hui un énorme souci.
Alors, c'est assez, je dirais, simple à comprendre. Quand vous regardez une rangée dans un avion moyen courrier, ben, vous voyez 6 places. Et quand vous regardez la taille du coffre au-dessus, ben, il n'y a pas la place pour la même rangée de mettre 6 valises cabine dans le coffre à bagages.
Mais ce n'est pas de notre faute, ça, nous.
Donc ce qu'on propose à nos clients, chez Transavia en tout cas, c'est comme ça qu'on l'écrit, on dit les 70 premiers qui arriveront à l'embarquement, eh bien, on peut leur assurer que leur bagage à main sera pris en cabine. Pour les autres, on ne peut pas assurer, mais il sera mis en soute sans payer de supplément. C'est comme ça qu'on propose ceci à nos clients. Ça nous permet aussi de récompenser les premiers clients qui nous permettent d'aider l'avion à partir à l'heure.
Et on ne peut pas demander aux constructeurs d'avions de faire des rangements à bagages un petit peu plus grands ?
Oui, tout à fait. Ça existe maintenant sur les avions nouvelle génération.
Vous allez acheter ce genre d'avion, par exemple ?
Eh bien, en tout cas, on se posera la question, bien sûr, des rangements à bagages.
Alors, votre homologue chez Air France, Anne Rigaille, elle prévoit de compenser à partir de 2020 toutes les émissions de CO2 des 500 vols intérieurs effectués par ces avions chaque jour en France. Vous allez le faire, vous aussi, chez Transavia ?
On fait partie, bien sûr, de l'engagement environnemental du groupe. Hein. D'abord, baisser notre consommation, ça c'est important. Chez Transavia France, on a baissé notre consommation par passager au 100 km de 14% ces dernières années. On est maintenant à 2,63 litres par passager au 100 km, donc c'est un score assez faible, grâce à la flotte et grâce aux pilotes également. Et les pilotes...
C'est-à-dire qu'ils volent moins vite ?
Non, les pilotes font ce qu'on appelle de l'éco-pilotage grâce... Alors, on le fait vraiment sur la base des données, vraiment des datas de vol. Il y a 2 start-up françaises qui nous aident là-dessus. Ces 2 start-up utilisent toutes nos datas et vont permettre de monitorer les bonnes pratiques et de nous dire précisément combien on peut gagner en économie de CO2 par pratique.
J'ai été très étonné en lisant cette interview d'Anne Rigaille. Elle dit « on va commencer à trier, à recycler les déchets ». Il serait peut-être temps quand même en 2019, non ?
Oui, c'est très intéressant, mais c'est toujours compliqué à bord d'un avion. La place est contrainte, donc ce n'est pas d'une évidence totale. En revanche, l'initiative aussi par Air France et aussi par Transavia d'éliminer les plastiques à usage unique à bord. Côté Transavia, ça sera fait d'ici la fin de l'année. 7 millions d'articles en plastique à usage unique seront éliminés de nos avions. Et les clients sont aussi demandeurs de participer à cet effort collectif.
Eh bien, un grand merci Nathalie Stubler d'avoir accepté l'invitation ce soir d'Europe 1. Vous êtes la patronne de la compagnie aérienne Transavia. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil et bon week-end. Et on retrouve évidemment votre interview en intégralité sur notre site europe1.fr. Vous ne bougez pas. Dans un instant, on jette un coup d'œil à vos unes des journaux de demain. A tout de suite. À la une de vos quotidiens, donc demain matin, l'ombre djihadiste. C'est le titre de Libération après ces nouveaux développements dans l'enquête sur l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Ouest France consacre, lui, un grand dossier au quotidien des aidants. C'est près de 11 millions de Français qui s'occupent d'un proche dépendant tous les jours. Ce dimanche 6 octobre marque la journée nationale qui leur est consacrée, journée des aidants. Et puis l'Assemblée nationale et la Cour de cassation imposent la GPA dans le débat bioéthique. Ça, c'est la une du Figaro qui revient sur la validation de la transcription dans le droit français des actes de naissance. On vous en a parlé à 22h, ces actes de naissance de 2 enfants nés d'une mère porteuse aux États-Unis. La décision de la Cour de cassation qui ne doit s'appliquer qu'à 7 familles précises et non pas à tous les dossiers à venir, mais qui alimente en tout cas le discours des opposants au projet de loi bioéthique débattu en ce moment à l'Assemblée. Opposants qui manifesteront dimanche à l'appel notamment des évêques de France et de la Manif pour tous. Voilà pour ce tour d'horizon de ce que vous retrouverez demain dans les kiosques. Avant de passer la main à Sana Blanger pour la Libre Antenne, un dernier détour par le stade de la Licorne. Amiens-Marseille, ouverture de la 9e journée de Ligue 1. On approche de la fin. Où en est-on, Sébastien Bouet ?
Eh bien, il reste 3 minutes à jouer ici au stade de la Licorne. Et Amiens tient bon. Amiens mène toujours 2-1 face à l'Olympique de Marseille. On rappelle le scénario, ouverture du score des Picards dès la 12e minute par Alessami. Égalisation marseillaise 10 minutes plus tard. But de Dario Benedetto, son 5e de la saison. Et Amiens qui reprend l'avantage ensuite à la 39e sur pénalty par Serrou Guirassy. Les Amiénois bien partis pour faire chuter l'OM qui n'avait plus perdu depuis la première journée et qui restait sur une série de 7 matchs sans défaite. Mais c'est compliqué pour l'OM, privé de nombreux joueurs majeurs, blessés ou suspendus. 5 au total, Payet, Thauvin, Strootman, Camara et Alvaro Gonzalez. C'est beaucoup et c'est ce qui explique en partie le manque d'inspiration des Marseillais, notamment dans l'animation offensive. Il y a eu des occasions quand même pour Marseille ce soir, mais ça ne veut pas s'ouvrir. Pour l'instant, Amiens en profite et mène donc 2-1 face à l'Olympique de Marseille. Il reste, allez, 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie.
Merci beaucoup Sébastien Boé. Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Il est 22h30 et vous avez rendez-vous pour votre libre antenne du week-end avec Sana Blanger ce soir. Bonsoir Sana.
Bonsoir Théo, comment ça va ?
Ça va bien. On est avec vous jusqu'à 1h du matin.
Absolument.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.